En guise d'entrée en matière, trois petites remarques. La première, vous l'avez déjà entendue de plusieurs des intervenants, j'y ajoute la mienne, je ne suis pas un spécialiste d'Alexander Kluge. La deuxième, le petit travail que je vais vous présenter ce matin repose sur la traduction d'un passage qui m'a été confié par Vincent Pauval. Et troisièmement, comme c'est un texte encore inédit en français, je suppose que la partie allemande de l'auditoire le connaît en revanche, je serai peut-être parfois conduit à être plus descriptif qu'analytique. Et je vous demande d'avance de m'en excuser. Vous avez sous les yeux un petit tableau dans lequel j'ai fait le découpage de la section dont je vais parler, non pas intégrale, mais la première partie du diptyque. Alors, la première colonne donne les pages dans l'édition de Die Lücke, Die der Teufel lässt. Les trois premières colonnes sont une répartition de la chronologie de l'action. La toute dernière colonne, c'est l'objet ou le sujet de chacune des sections. Et dans la série des voies, temps et mode, l'avant-dernière colonne, j'ai essayé de montrer la variété des procédés narratifs utilisés par Kluge. Et je signale que les passages qui sont en italique sont des passages qui touchent très précisément à l'industrie nucléaire. Le reste sont des histoires ajoutées et intercalées par l'auteur et sur lesquelles je reviendrai dans un moment, et d'ailleurs je ne parlerai presque que de cela. À 15 ans de distance, Alexander Kluge a consacré deux séries de textes à la catastrophe nucléaire civile survenue à Tchernobyl dans la nuit du 26 avril 1986. Je voudrais d'abord en donner une description rapide en insistant sur leur qualité de dispositif littéraire. Le premier des deux, Les gardiens du sarcophage, 10 ans de Tchernobyl, inédit en français, a été publié 10 ans exactement après les faits, dans une intention remémorative plutôt que commémorative, pour livrer au public, le plus large possible, la connaissance de l'événement et de ses suites, et surtout pour l'inviter à transmettre à ceux qui viendront la conscience de la dimension inédite que l'explosion d'avril 1986 a ouverte dans l'histoire de l'humanité. Ce ne sont pas seulement les gouvernants, les chercheurs et les techniciens qui doivent veiller sur le revêtement de béton toujours troué qui enfermait les décombres du réacteur, mais tous les hommes. En ce sens, nous sommes nous-mêmes les gardiens du sarcophage quand nous pensons à nos enfants et ne voulons pas abandonner à l'oubli l'objet que représente Tchernobyl. Ainsi, Kluge conclut-il sa magnifique préface au petit volume. L'autre texte, celui qui m'occupera principalement dans cet exposé, est représenté par la deuxième section du volume imposant publié par Kluge en 2003 sous le titre « Die Lücke, die der Teufel lässt », que je m'autorise à traduire provisoirement par « La brèche que laisse le diable », à moins que ce ne soit la trouée qui l'opère. Cet ensemble de 88 pages s'intitule « Une collectivité humaine peut-elle dire je, Tchernobyl ?» J'avertis d'emblée qu'il est plus difficile que pour le petit volume de 1996 d'en ramasser en une phrase le propos et l'intention. L'indétermination du sens y est en effet beaucoup plus grande, ce qui tient sans doute à sa nature de texte littéraire, laquelle formera explicitement ou non l'essentiel de mon propos de ce matin. De quoi s'agit-il d'abord avec les gardiens du sarcophage? De la reprise de textes d'émission sur Tchernobyl, diffusée entre 1991 et 1994 sur les chaînes privées allemandes SAT1 et RTL+. Principalement, 5 interviews de personnes ayant vécu de près la catastrophe. Dans le dernier, en 1993, Kluge questionne Svetlana Alexievitch, l'écrivaine de père ukrainien et de mère biélorusse et futur prix Nobel, alors âgée de 45 ans et qui travaille à son grand livre de voix, La prière de Tchernobyl, qui paraîtra en 1997. En français, cela s'intitule La supplication. Tous ces entretiens dans ce livre sont illustrés de nombreuses photos et le livre s'ouvre sur le texte de Kluge déjà cité pour s'achever sur un glossaire et un choix de documents. La section Tchernobyl de Diluc, celle que vous avez dans ce petit tableau, ou du moins pour sa première partie, se présente très différemment. Elle se compose d'une soixantaine de récits de longueur très inégale, agencés en diptyque. Un premier volet de 25 récits, dont l'un des fils directeurs serait une série de petits accidents nucléaires survenus en URSS entre 1957 et 1982, période ironiquement baptisée par Klug « le temps de l'innocence ». Je vous laisse apprécier l'humour. Un deuxième volet, plus étendu, 37 récits qui ne figurent pas sur mon tableau, est presque entièrement consacré, lui, à la catastrophe et ses lendemains. Qu'est-ce qui caractérise, sur le plan formel, le dispositif ainsi construit par Klug? Sa discontinuité, son hétérogénéité et la minceur apparente de son guidage narratif. L'histoire de la catastrophe reprend les principaux épisodes connus, l'explosion, la lutte contre l'incendie du réacteur, l'arrivée des équipes dépêchées de Moscou, l'évacuation de la ville de Pripyat, enfin les débuts de la lutte pour la décontamination. Mais elle est coupée de nombreuses ellipses. Ce n'est ni une relation suivie et détaillée de ce qui est arrivé, ni une reconstitution analytique de ce qui a pu se passer, à la différence, par exemple, de la série HBO, très récente, que vous avez peut-être vue ou que vous pouvez encore voir, du moins en France, série britannique intitulée Tchernobyl, qui combine justement ces deux aspects de façon volontairement dramatique et spectaculaire. Et surtout, cette série d'événements est entrecoupée de récits qui se passent à d'autres moments de l'histoire soviétique, antérieurs ou ultérieurs, entre 1917 et 2003, qui l'interrompent, la freinent ou la font dévier. Et cela tout particulièrement dans le premier volet, celui dont je vous ai distribué le découpage. Sur les 25 récits qui le composent, 8 seulement évoquent des accidents ou des risques d'accidents nucléaires. Ainsi naît une tension voulue entre l'évocation de la catastrophe ou de ses prodromes et le retour sûr ou le bond en avant vers d'autres périodes. Tension avisée par le fait que les histoires étrangères à Tchernobyl sont en général plus longues et plus denses que les épisodes consacrés à 1986. Nous avons donc affaire à un récit en segment de durée, comme le disait Alexandre Solzhenitsyn à propos de son roman « La roue rouge », et même en ce qui concerne Tchernobyl, de courte, voire de très courte durée, et dont le déroulement se présente comme morcelé et enchevêtré. De plus, ces segments ont des modes de narration distincts. Les plus nombreux sont aussi les plus classiques, à savoir des récits hétérodiégétiques ultérieurs à l'événement raconté. Exemple, le général des troupes de combat chimique de l'URSS s'appelait Pikhalov. Parfois, ce sont des récits simultanés ou itératifs. Plus d'une fois, par les nuits d'automne, quand la tempête s'abat sur Moscou, Andropov voit avec quelle hardiesse les âmes traitent les corps. Mais cette formule ne s'impose jamais au-delà de 2 ou 3 segments de suite. Elle fait souvent place à des récits homodiégétiques, ultérieurs ou simultanés, au singulier ou au pluriel. Exemple, c'est moi qui ai organisé l'inhumation des morts de la catastrophe. Nous avons perdu la côte somalienne, mené des actions retardatrices en Angola, perdu le Mozambique, ou alors à des dialogues. Traducteurs et lecteurs savent que ce genre, le dialogue, traité sous la forme ludique ou sérieuse, de questions-réponses, plutôt que de l'échange ou du duel dramatique, occupe chez Klug une place singulière. Il s'émancipe souvent jusqu'à occuper la moitié du texte, faisant alors jeu égal avec la narration, ou jusqu'à dominer le récit, réduit alors à 1 ou 2 lignes d'introduction ou de clausule, voire jusqu'à s'imposer seul à ses dépens. Plusieurs segments de l'histoire de Tchernobyl sont ainsi composés sous forme de dialogue, et de dialogue entre des interlocuteurs anonymes. En tout cas, complémentaire ou rival du récit, le dialogue continue à élargir la palette des formes de récit qui alternent sans cesse. Revenons une minute au gardien du sarcophage. Là aussi, la discontinuité et la diversité sont présentes, du fait de la dissemblance des témoignages et des points de vue recueillis, du fait aussi de la présence discrète, au centre du recueil, d'un texte tout différent des entretiens, qui s'intitule « Le plongeur Ananenko ». C'est la relation fictive, sous forme d'un dialogue radiophonique, de l'exploit de trois techniciens de Tchernobyl. Ils se sont portés volontaires pour plonger dans une partie inondée et fortement irradiée de la centrale et actionner le mécanisme de vidange des réservoirs souterrains sous le réacteur encore en feu, conjurant la menace d'une deuxième explosion. Un récit littéraire vient donc s'encastrer entre des reportages, accroissant donc l'hétérogénéité formelle du recueil. Cependant, diversité et discontinuité sont atténuées dans Les Gardiens du simple fait qu'on peut rattacher tous les textes à Kluge lui-même. Son nom figure sur la couverture, il a préfacé l'ouvrage, il est l'auteur des entretiens rassemblés et aussi du texte non journalistique sur les trois plongeurs. La preuve, il l'a repris dans le volume 1 de Chronique der Gefühle, paru en 2000 et en lui conservant son titre d'origine. En revanche, en 2003, rien ne vient justifier les anomalies du récit, ni la variété formelle des segments individuels successifs. Chacun de ceux-ci est raconté par quelqu'un, mais il manque un narrateur omniscient, pour reprendre l'expression de Clemens Porschnegel utilisée hier matin, un narrateur omniscient auquel on pourrait rajouter tout le dispositif. Personne n'articule la totalité des récits, ne comble les lacunes d'une même série temporelle, et surtout, personne ne fait le moindre lien entre 1986 et les histoires intercalées qui se placent à d'autres époques. C'est donc au lecteur d'affronter à ses propres frais l'enchevêtrement du temps. L'autre absence marquante est celle de tout commentaire, de toute évaluation ou prise de position à l'égard des actions qui se déploient. Certes, des jugements, parfois véhéments, sont émis par les personnages eux-mêmes au cours de certains récits, et les accents sont parfois distribués de manière à suggérer une empathie à l'égard de tel ou tel d'entre eux. Par exemple, le physicien nucléaire Vielikov, présenté comme l'homme de confiance de Gorbatchev, mais le dispositif accroît la perplexité du lecteur plutôt qu'elle ne la soulage. Les gardiens du sarcophage et la section 2 de Die Lücke forment donc bien deux dispositifs autonomes très différents l'un de l'autre. N'y a-t-il pas pour autant des passerelles qui les relient ? Il y en a plusieurs, mais je me bornerai à en signaler une. C'est la référence, mentionnée dans Les Gardiens, au livre du physicien Grigori Medvedev, intitulé en russe « Chronique de Tchernobyl ». C'est un spécialiste des centrales nucléaires, envoyé sur place au début de mai 86. Il a procédé à une longue enquête personnelle dont il est parvenu non sans mal à faire publier les résultats à Moscou en 1989 avec une préface d'Andrei Sakharov. Kluge connaît très bien cet ouvrage et ne fait pas mystère dans une note de Die Lücke de l'avoir suivi sur de nombreux détails. De fait, sur 33 récits consacrés à la catastrophe, 22 transposent, occasionnellement ou de façon plus systématique, des passages de ce livre. Et 6 sur 8 des récits d'accidents que vous avez sur la feuille que j'ai distribuée s'en inspirent aussi parfois littéralement. Les relations entre le recueil de 1996 et la partie 2 de Die Lücke sont donc étroites. À quoi servent donc leurs dispositifs respectifs ? Mon hypothèse est la suivante. On pourrait dire que Kluge fait de chacun des deux un espace d'interlocution, un espace d'intercompréhension destiné à élucider l'événement, à le rendre lisible pour l'intelligence et gérable par la mémoire. Une sorte de mise en scène, si l'on veut, mais qui soit aussi une mise en forme, forme au pluriel, et une mise en sens. Simplement, du fait de la discontinuité et de l'hétérogénéité déjà nommées, ainsi que de l'effacement de tout narrateur en position omnisciente ou surplombante, le dispositif de Die Lücke est beaucoup plus opaque que celui qui avait déjà été mis en œuvre 7 ans plus tôt. Je passe à mon second point. Je me limiterai désormais au texte de Die Lücke. Comment Kluge aborde-t-il l'événement ? On pourrait le dire qu'il renonce d'abord aux deux discours les plus attendus, ceux que suggèrent bien les titres donnés en Allemagne et en France au livre cité plus haut de Grigori Medvedev, Chronique de Tchernobyl. En français, ça s'appelle « La vérité sur Tchernobyl, 1990 », à savoir la question des causes scientifiques, techniques et humaines de l'accident. En allemand, ça s'appelle « Verbrannte Seelen, âme brûlée qui rappelle Gogol ou peut-être Bulgakov, je veux dire, le maître et Marguerite. C'est-à-dire la question des victimes. Le pathos de la recherche de la vérité et celui de la représentation des souffrances. Deux passages le montrent clairement. Le premier reprend à la fois le récit de la nuit de l'explosion et la plupart des explications devenues courantes, un réacteur mal conçu, des opérateurs imprudents, des chefs ignares et irresponsables. Mais le tout est comprimé dans le dialogue serré de deux espions, l'un américain, l'autre russe, qui, à quelque temps de là, cherchent à s'éblouir mutuellement par leur connaissance du dossier, comme si la généalogie du sinistre relevait d'abord d'une curiosité policière et devait céder la place à une autre forme d'interrogation. Le deuxième passage important relate le traitement en Moscou d'un contremaître de Tchernobyl, exposé à de fortes variations après l'explosion du réacteur. Les lésions décrites sont si graves qu'il paraît miraculeux qu'il puisse ressortir vivant de la clinique au bout de 40 jours, alors que tous ses pareils sont morts dans d'inimaginables souffrances. En fait, chez Medvedev, ce malade n'a pas été irradié à Tchernobyl en 1986, mais dans une autre centrale, et surtout à une autre époque. L'auteur l'a rencontré 25 ans plus tôt, alors qu'il était lui-même soigné à Moscou. Kluge ne s'encombre absolument pas de ce retour en arrière. Comme les symptômes de ce blessé annonçaient déjà ceux des victimes de Tchernobyl, il les adapte à sa description, aussi précise que dépourvue d'affect, d'un cas d'irradiation grave en 1986. On pourrait s'étonner de cet apparent refus de l'émotion dans la recherche de la vérité ou l'évocation des souffrances, ou croire que l'auteur de Chronique des sentiments a échangé sa place avec Svetlana Alexievitch, qui, elle, décrit ainsi son projet dans la supplication, reconstituer les sentiments et non les événements. Pour une fois, c'est Alexander Kluge, paradoxalement, qui s'en tiendrait strictement aux seuls événements. Il n'ignore pourtant, ni ne sous-estime l'urgence de faire toute la lumière sur les causes et les conséquences de la catastrophe, et d'abord sur son coût humain, qui, au gré des fluctuations politiques d'après 91, a été tour à tour caché en URSS, puis en Russie, minimisé en Biélorussie, ou au contraire gonflé en Ukraine, et demeure largement inconnu aujourd'hui. Simplement, ce n'est pas sa visée principale. Ce qu'il met au premier plan, me semble-t-il, dans l'espace d'intercompréhension dont j'ai parlé, peut se comprendre à partir de l'intérêt qu'il attache au comportement, aux propos et parfois aux pensées des envoyés de Moscou à Tchernobyl. Ministres et vice-ministres, hauts fonctionnaires, généraux, académiciens, toute catégorie de gens qu'il n'a pas interviewés dans son petit livre de 1996. Je passe vite sur la dimension satirique du tableau. Les généraux entraînés à faire la guerre nucléaire et qui, à peine arrivés à Tchernobyl, découvrent que c'est plutôt une option évitée par tous les moyens. Les ministres qui ont fait carrière dans tous les domaines, béton, pétrole, ergométrie, sauf précisément l'énergie nucléaire, et que voudraient maintenant refiler la patate chaude aux savants. Le vieux communiste, Chtcherbina, activiste à quatre vitesses, dit Kloug, apte à embrayer sur les situations les plus neuves en plaquant sur son désarroi le masque du comédien politique. Personnifier un calme inébranlable en cas de coup dur faisait partie de son rôle, commente le narrateur de ce petit passage. Ce personnage ira jusqu'à donner en public les premiers coups de pelle dans le sable qu'on doit verser sur le cratère du réacteur pour éteindre l'incendie. Il y a du comique et de l'humour noir dans les pires événements, ainsi que Kluge le soulignait dans le petit livre de 1996, et il les exploite ici. La série Tchernobyl, la série télévisée actuelle, donne au contraire des rapports entre l'homme de science et l'homme de parti, joués tous les deux par de grands comédiens, une version sentimentale, anachronique, quasi-réaliste socialiste. À travers ces discours et ces pantomimes qui s'entrecroisent, s'esquisse une sociologie politique. Tout en haut, les hommes de confiance, dotés des pleins pouvoirs, au-dessous, les bureaucrates des ministères et des entreprises, cette fameuse dualité héritée de l'ère stalinienne et de sa dictature ou de son pouvoir que l'on appelle parfois aujourd'hui néo-patrimonial, teintée bien sûr d'un peu de management à l'occidental. en bas, la masse des exécutants de toute nature, jetés sans ménagement dans la bataille contre l'incendie. La courroie de transmission entre le sommet et la base, c'est bien entendu la police politique, arrivée sur les lieux avec le premier avion sous prétexte de coffrer les espions et les saboteurs étrangers. Toutefois, Kluge suggère que ceux d'en bas ne font pas qu'obéir. Leur initiative créatrice les aide à improviser et à perfectionner les moyens de protection que les autorités sont incapables de leur fournir. Tout ce que les autorités peuvent leur fournir, c'est une indemnité misérable de quelques centaines de roubles et surtout des hectolitres de vodka. Et ce sont les exécutants à la base, les liquidateurs, comme on les a appelés de façon sinistre, qui inventent les feuilles de plomb isolantes, les masques respiratoires et qui bricolent des petits robots à partir de jouets trouvés dans les grands magasins pour éviter le transport manuel des matériaux irradiés. Dans cet univers dominé par le travail mort, ils sont les seuls à représenter, à être du côté du travail vivant, selon une distinction de Marx que Kluge cite plusieurs fois par ailleurs. Ou plus simplement, il prouve que dans cette société cadenassée, certaines catégories, populaires notamment, puisque ce sont des ouvriers, des soldats et des paysans, sont capables d'initiative et de créativité collective. Ce tableau sociologique aide à comprendre pourquoi Kluge n'a pas d'abord cherché les défauts du réacteur ou les imprudences des opérateurs pendant la nuit fatale. Ce qui l'intéresse, c'est de mettre en lumière une structure commune au déclenchement de la catastrophe et aux mesures de lutte et de mobilisation qui sont prises en son encontre. Une structure qui a pris forme bien avant la catastrophe, peut-être du jour où, à la fin des années 50, le physicien Kourtchatov, appelé l'homme tank, a convaincu le groupe dirigeant russe de préférer les centrales nucléaires aux centrales thermiques pour produire de l'électricité en URSS. Ou peut-être plutôt encore, mais quand ? La réponse est peut-être dans les fameux récits intercalés dont j'ai déjà parlé, qui remontent et descendent le cours du temps, mais sans respecter l'ordre chronologique. De Gorbatchev vers Andropov, le premier secrétaire général à avoir allégé la chape du secret qui pesait sur les accidents nucléaires en Russie, prélude possible à une perestroïka dont il aurait été le véritable inventeur et qui devait faire de la police politique le cerveau du régime et de la société russe. D'Andropov vers Rouchtchov, présenté en conflit avec l'état-major de la flotte soviétique de la mer Noire, dont il contestait le souci d'innovation technologique. Conflit qui lui a coûté finalement son poste, nous dit un narrateur bien informé de cet envers de l'histoire contemporaine, mais sans nous aider à savoir finalement qui aura eu raison dans cette crise, du politique, du savant ou du militaire. Et enfin, bien entendu, de Khrouchtchev vers Staline, resté indéboulonnable malgré le 20e congrès, comme l'indique une abracadabrante histoire de plaintes déposées contre lui pour avoir assassiné, plainte déposée en 1985, pour avoir assassiné sa deuxième femme en 1932, plainte à laquelle il n'est pas donné suite. Le comique et l'humour ne sont jamais loin chez Kluge. Mais même si l'on remontait jusqu'à Lénine, dont la centrale accidentée portait le nom, est-ce que cela suffirait ? Ne doit-on pas faire entrer en ligne de compte l'histoire antérieure de la Russie? Je prends trois exemples. Le rite expiatoire, qui dans des temps très anciens, avant même le peuplement slave, voulait qu'on érigeât un tertre à un prince mort, notamment pour faire honte à ceux qui ne l'avaient pas défendu de son vivant, se retrouve dans la manière dont, après 86, on édifie un gigantesque sarcophage de béton pour recouvrir, dit Kluge, l'accident à jamais inexcusable, la cassure du réacteur accidenté. L'attribution fréquente par le pouvoir communiste d'une centrale nucléaire à tel ou tel potentat provincial, ce qui explique la prolifération des centrales dans l'URSS des années 80, rappelle les tsars offrant à leur gouverneur préféré une cathédrale ou une place centrale destinée aux exécutions. Et si un dessinateur travaille aujourd'hui à une signalisation capable dans 6000 ans encore d'alerter sur la présence de zones contaminées, par définition invisibles, des hommes dont on ne sait pas dans 6000 ans à quoi ils ressembleront, il évoque aussitôt le souvenir d'un savant qui, sous Catherine II, avait ouvert dans les forêts russes d'immenses lions uniquement pour que d'éventuels habitants d'autres planètes pourraient voir que, je cite, « des connaissances mathématiques étaient répandues de par la Russie analphabète ». Et même, est-ce qu'il ne faut pas sortir de Russie pour comprendre toutes les strates d'expérience accumulées au long de ce processus ? Les spécialistes du béton dépêchés d'urgence à Tchernobyl, dit l'un des récits, apportent avec eux une praxis de 3 millénaires. Son origine ne se trouve pas dans notre réalité, elle est la même que pour l'édification des pyramides. Par contre, ajoute Kluge, la conscience de soi des physiciens remonte à 1602. Vous aurez deviné depuis un moment où je veux en venir. Le parallèle qu'il est tentant de faire avec le processus désigné de longue date dans Stalingrad comme l'édification organisationnelle d'un malheur, et avec la durée considérable qu'il nécessite. La défaite nazie remonte probablement, selon Kluge, dans un passage assez curieux de Chronique des sentiments, dans le premier volume de la traduction française, la défaite nazie de 1943 remonte probablement au Saint-Empire romain germanique. Je cite, « Personne ne serait jamais allé spontanément à Stalingrad. Personne n'aurait eu de raison non plus d'y faire quoi que ce soit. C'est le Reich, une création de 1000 ans, mélange de désir et de contraire qui fait marcher ces hommes. » Fin de citation. Entendons par là qu'ils ne mobilisent pas seulement leur force physique pour la conjuguer à la puissance de ces armements, mais qui leur fait partager une idée et une conviction, la capacité de faire tout, et je cite, et c'est en petite capitale dans le texte, la capacité de faire tout ce que nous n'estimons pas strictement impossible. Chez Kluge, l'incendie du réacteur vient aussi d'une histoire longue. À un moment donné, une dispute oppose deux interlocuteurs anonymes. L'un dit qu'il aurait fallu à Tchernobyl, le 27 avril, des hommes qui agissent par conviction. L'autre lui répond, si seulement nous n'avions pas eu d'hommes d'action auparavant, l'accident était fait d'une accumulation d'actions. Et l'incendie du réacteur marque peut-être, selon le physicien Vielikov, la clôture d'une ère où l'humanité se croyait en capacité d'accomplir tout ce qui n'était pas strictement impossible à ses yeux. La formule qu'utilise Kluge est « das Ende der Machbarkeit », c'est-à-dire la fin de ce qui est tout à la fois possible, faisable, envisageable, réalisable, raisonnable. Le parallèle avec Stalingrad pour les Allemands s'en trouve renforcé. Je passe à mon troisième et dernier point. Est-il possible d'aller plus loin dans le commentaire, dans l'analyse ? Pour ma part, je n'en suis pas certain, et pour trois raisons que je vais vous donner maintenant. D'abord parce que la tâche à laquelle Kluge semble nous inviter, et notamment celle de scruter les ponts multiples qu'il jette entre l'événement de 1986 et les autres moments de l'histoire russe ou soviétique qu'il évoque, supposerait une métaphore du lecteur en historien, en polémologue ou en géopolitologue, et donc une rupture du lien entre le lecteur et l'œuvre littéraire. J'ignore si cette métamorphose est possible et je me demande si cette rupture est souhaitable. En second lieu, il n'est pas sûr que remonter sans cesse du présent vers un passé toujours plus reculé nous mettent vraiment sur la voie d'une élucidation. Est-ce qu'à force de remonter, nous trouverons la raison première ? Je n'en suis pas sûr. Vers la fin, Alexander Kluge cite Mandelstam. Et ça nous avertit peut-être du danger des rétrospectives systématiques. Toi, mon époque, avec un rire absurde, tu regardes en arrière, souffrante, faible et cruelle. Il y aurait bien sûr le choix inverse. Aller de l'explosion de la centrale en 1986 à l'implosion de l'URSS en 1991 et au-delà. Ou encore multiplier les parallèles entre 1986 et d'autres époques. Mais ce n'est pas forcément plus porteur. Si Kluge le fait, c'est moins peut-être pour inciter son lecteur à arpenter l'histoire dans tous les sens que pour suggérer la dislocation définitive du rapport entre l'espace d'expérience et l'horizon d'attente qui a longtemps caractérisé la ou les modernités. Tchernobyl serait, comme le dit l'historien français Nicolas Werth, un événement qui appartient au futur, mais un futur extrêmement difficile à articuler avec le présent et le passé. L'image tragique d'un temps disjoint, hors de ses gonds, explique que l'académicien Velikov, le seul envoyé de Moscou à entrevoir l'ampleur de l'événement, soit traité d'Hamlet par les communistes au pouvoir et les hommes d'action qui ne l'apprécient guère. D'où viendrait cette dislocation du temps? Du fait peut-être qu'avec l'énergie nucléaire, les hommes ont non seulement pu se mesurer à l'incommensurable, ils l'ont toujours fait, comme on le voit, dès la tragédie grecque, mais ils ont tenté ici de le manipuler et de le faire entrer dans leurs calculs. Déjà souligné dans la préface du gardien du sarcophage, les motifs de l'incommensurabilité ou de la disproportion, Unverhältnismäßigkeit, sont constants dans cette section de Die Lücke. Par exemple, face à des processus qui couvrent une durée de demi-vie de 300 000 ans, les décideurs chargés de les surveiller sont contraints d'inventer des échéanciers qui échappent complètement à leurs habitudes et les exposent à la folie. Pensons à Velikov devant cette césure du temps qu'a provoqué l'explosion du réacteur. Je cite « Rien ni personne, ne disait-il, ne peut dompter cet incendie, cette bête féroce qui a quitté sa cage. Ni le chlorure de bord, ni le sable, ni le béton, ni le temps, à moins de compter en néon qu'on ne peut pas faire entrer dans les considérations politiques. » On en revient toujours au même point. Tchernobyl comme mise en déroute du politique et donc de l'institution du social, et donc ensuite de part en part de tout l'établissement humain. Ma troisième et dernière raison est que l'entrecroisement de la chronique de Tchernobyl avec des histoires situées à d'autres époques revêt peut-être une signification supplémentaire. Je partirai pour cela du sixième récit qui s'intitule « Un millier d'yeux ». Je le résume très vite. Après la mort de Staline, un ancien agent de la police politique en disgrâce, Vorolov, est envoyé diriger une équipe de forestiers sur le vaste territoire en forme de jungle qui s'étend au nord de la Sainte-Russie. Peu à peu, il s'avise de la présence, près de son campement, de tout un peuple de fourmis, à vrai dire d'une centaine de peuples de fourmis, et développe une véritable hantise à l'égard de ces insectes dotés de plus d'yeux que les hommes. Que voient ces cinq yeux? Et que voient 22 millions de fois cinq yeux? Ayant gardé un contact avec plusieurs centres scientifiques, ils s'entendirent par des experts que les fourmis ne voient qu'à 3 mètres et qu'elles ne sont pas en mesure de l'observer. Rien n'y fait. L'ancien espion se sent épié sans relâche. Il demande à être réaffecté à son ancien service, mais en vain. Il appartient à un passé que les autorités préfèrent oublier, celui de la grande purge sanglante des années 37-38, et la voie du retour lui demeure définitivement fermée. Si l'on compare le portrait de cet ancien officier, personnage inventé qu'on pourrait à la rigueur trouver dans une nouvelle ou un roman, à ceux des personnalités officielles et historiques mises en scène à Tchernobyl, on s'aperçoit que l'écriture de Kluge, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais au moins dans ce passage sur Tchernobyl, suit deux tendances. L'une marquée par la tradition romanesque, comme dans le cas qui nous occupe, et l'autre, pour ce qui touche au nucléaire, plutôt orientée vers le récit non référentiel, documentaire, journalistique. Mais « orientée vers » ne signifie pas « changer en ». On pourrait parler d'une tendance à la défictionnalisation, notamment du fait que l'écrivain s'abstient pour Tchernobyl d'user de la gamme des différents points de vue qui servent à construire les personnages fictifs. Cela pourrait expliquer l'emploi déjà noté du dialogue qui lui permet, surtout quand il prend des interlocuteurs anonymes, de ne pas caractériser du tout ses personnages. Il renonce donc dans de tels passages à leur donner cette transparence intérieure qui, au dire de la poéticienne américaine Dorit Cohn, est la marque majeure des textes fictionnels et qui reparaît au contraire, entre autres, dans l'histoire de Vorolov. Du coup, l'entrecroisement de Tchernobyl avec des récits inventés atténue la limite qui sépare les récits référentiels, en principe vérifiables mais incomplets, Tchernobyl, des récits non référentiels, invérifiables et complets, celui de Vorolov. Mais ici encore, atténuer ne veut pas dire outrepasser. L'idée, me semblait-il, est plutôt de confronter, au sein d'un même ensemble de textes, l'exercice d'une fiction de plein droit et celui d'une fiction documentarisée. Du reste, on ne voit pas comment des textes non référentiels pourraient cohabiter avec des textes d'invention comme celui de Vorolov, sauf à faire éclater le cadre pragmatique d'ensemble, celui de la fiction, qui n'est pas affaire de degré, mais de tout ou rien. Certes, on l'a déjà dit, la figure d'un narrateur distinct de l'auteur, autre caractéristique de la nation fictionnelle, est relativement estompée dans les segments sur Tchernobyl, ce qui pourrait plaider contre mon hypothèse. Mais elle n'en est pas moins repérable pourtant, si ce n'est comme narrateur, du moins c'est à titre d'agenceur. On le voit à la présence du dispositif d'encadrement de ces textes, à leurs titres ou intertitres, au choix des citations réelles ou apocryphes qui sont placées en exemple de certains d'entre eux, et parfois se répètent dans le cours du texte. Donc, Kluge n'abandonne pas la fiction par intermittence, comme on pourrait le croire. Il la pratique constamment, mais selon deux types d'intensité bien distincts, dont la tension traverse son écriture. Dernier point, ce personnage de Vorolov ne diffère pas seulement de Velikov ou de Chtcherbina, dont j'ai déjà parlé, au sens où il est un personnage inventé, alors que les autres sont des personnages historiques insérés dans des récits fictionnel. La surveillance dont il se croit l'objet, de la part des fourmis, et bien entendu le retournement en son contraire et à son détriment de celle qu'il a exercée pendant des années à l'encontre de milliers de suspects. L'ancien Argus policier, le fonctionnaire du parti mit tausend Augen, comme dit Brecht dans un texte célèbre, se voit exposé ici à la prolifération du regard des fourmis. Les yeux supposés des fourmis sont en fait ceux de ses victimes qu'il n'a jamais vues auparavant. Il y a une note très, très sarcastique et très cruelle de Kluge en bas de page. Dans les dossiers, les yeux de ceux que vous observez ne vous regardent pas en retour. Je vois des fantômes, dit Vorolov. Sa hantise rappelle bien sûr Lady Macbeth ou Boris Godounov. Ce quoi elle augmente la densité littéraire du texte. Elle réveille la trace du temps. Elle fait revenir sur une scène fantasmagorique, celle des fourmilières, l'empreinte de sa propre histoire. Un peu comme dans le dernier récit sur Tchernobyl, la fourrure qu'une ingénieure de la centrale, celle-là même que Kluge a interviewée dans Les gardiens du sarcophage, conserve dans sa garde-robe. Sur cette fourrure, il y a la trace de la catastrophe sous forme d'une brûlure due à l'irradiation. Et elle la considère, je cite, « cette trace, un pays à lui seul dans la Grande Russie, grand de quelques centimètres, mais d'un danger mortel. » Est-ce que je m'illusionne si ces fourmis et cette fourrure me semblent des manifestations de la parole muette inscrite dans les choses à laquelle la littérature s'est rendue très sensible lorsqu'elle est devenue moderne, c'est-à-dire quand elle est passée du régime représentatif au régime esthétique, pour le dire dans les termes de Rancière. Selon cet auteur, la parole muette a deux versants. D'un côté, la trace d'histoire à déchiffrer, de l'autre, la présence nue, l'intensité sans raison, qui entrave le déchiffrement que l'autre provoque, ou le condamne à déboucher sur rien. À nouveau, je m'illusionne peut-être quand je crois retrouver l'équivalent de cette présence opaque dans la réponse du biologiste à l'ancien policier. « C'est votre imagination. Vous voyez des choses comme il s'en passe en ville. Seulement, ce n'est que la forêt. » En transformant ainsi la scène surinterprétée en scène insignifiante, il n'est pas sûr que le savant apaise la hantise de l'ancien argousin. Il livre plutôt celui-ci à la démesure du non-sens, faite de millions de fourmis myopes, de forêts, de neige, de vent, la démesure de cette partie de la Russie vide dont il ne reviendra pas, la démesure devant laquelle toute pensée défaille. Pour la conjurer, l'ingénieur, quant à elle, découpera finalement sa fourrure pour en ôter la tâche, sans que le résultat la satisfasse non plus. Pour en revenir à Vorolov, d'autres textes du même ensemble montreraient des hommes dans des situations semblables à la sienne, aux prises avec une nature ingouvernable et qui ne se plient pas à l'idéologie en vigueur, au matérialisme dialectique. Dans la Grande Russie, je cite, « les forces de la nature, de l'esprit, des corps, les terrains, ne se comportent pas comme dans les manuels scolaires, même communistes. » Ainsi, dans l'histoire de l'hivernage forcé dans les glaces, dans la prison de la nature, de l'équipage d'un bateau soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'héroïne, une militante communiste, tire de cette expérience de l'affrontement avec la nature un affaiblissement tel de ses convictions qu'elle ne reviendra jamais dans sa patrie socialiste. Simplement, ces textes revêtent souvent des formes consacrées par la tradition et que l'on connaît depuis fort longtemps. Anecdotes, apologues, paraboles et d'autres. Ils n'ouvrent pas, dans le monde ordinaire, cette double scène de la trace à déchiffrer et de la pression du non-sens que je crois voir dans l'histoire de Vorolov. Ainsi, une tension supplémentaire parcourt en définitive l'œuvre de Kluge, de part et d'autre cette fois, de la ligne qui sépare la chronique défictionnalisée de Tchernobyl de la richesse des histoires inventées, ces récits attestent le travail de deux régimes d'écriture différents. L'une plus traditionnelle, mimétique, illustrative, l'autre plus récente, expressive, productive. On pourrait conclure avec un aphorisme de Heiner Müller, « Die Metaphor ist klüger als der Autor ». La métaphore est toujours plus maligne que l'auteur. Seulement, Kluge als Kluge, est-ce que c'est représentable? Je vous remercie.